Agente hospitalière, collectrice de lait maternel, c'est le métier de Nathalie qui travaille étroitement avec le Lactarium de Bordeaux. Dans cette interview, elle va nous décrire en détail les missions qui sont les siennes, elle va nous décrire son métier et surtout elle va nous parler de la nécessité des dons maternels qui sauvent des vies. Elle va nous décrire ce qu'est un lactarium et nous informer un peu plus sur son fonctionnement. Bonjour Nathalie.
Bonjour Maëline, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Nathalie, comme je le disais, vous êtes agente hospitalière depuis plusieurs années déjà. Vous êtes rattachée au CHU de Bordeaux et l'originalité de votre statut consiste en réalité non pas à intervenir chaque jour à l'hôpital, vous êtes le plus souvent en vadrouille, en Corrèze et aux alentours. Qu'est-ce que vous faites réellement ?
Alors, depuis 21 ans, je travaille pour un lactarium au poste de collectrice de lait maternel. En effet, je rayonne sur le département de la Corrèze une partie du Lot, du Cantal et de la Dordogne. Mes missions principales sont de promouvoir le don de lait et d'organiser la collecte au domicile des mamans, ainsi que dans les services de maternité et de néonatologie. Également, bien sûr, j'accompagne et je soutiens les mamans qui allaitent.
Alors c'est une mission assez originale, comment est-ce que vous êtes arrivée à l'occuper ?
Alors en fait, j'ai allaité mes deux enfants et j'ai vécu ça comme un immense privilège. Aussi, je me suis investie dans une association de mamans bénévoles, une association qui s'appelle Allaiter Câlin, qui existe depuis 25 ans en Corrèze. Et c'est une association qui organise notamment des rencontres entre parents de bébés allaités. J'ai appris à l'époque, par le biais de cette association, que le poste de collectrice allait se libérer et j'ai postulé.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
Alors avant, j'avais pris un petit congé parental, oui. Bien sûr, et ce qui m'a laissé le temps de mûrir un petit peu mes projets, et j'étais assistante commerciale, donc rien à voir.
Ah oui, super, bah c'est une jolie reconversion, ça vous plaît en plus, ce que vous faites, oui. D'être attachée au lactarium.
Je n'ai jamais regretté ce changement de voie professionnelle.
Oui, puis ça se sent dans votre manière d'être. Oui. Alors, votre mission, Nathalie, elle vient répondre à un besoin fondamental et on peut dire à une question de vie ou de mort carrément. Le don de lait sauve des vies. Quelle vie ?
Alors,
à qui est-ce qu'il est destiné ce lait ?
Alors, le lait que nous collectons est destiné à des bébés très fragiles, nés prématurément, avec pour certains des poids de naissance inférieurs à 1 kg. Les mamans de ces bébés-là ont besoin de temps pour se rétablir et pour mettre en place leur lactation. Donc, en attendant, nous donnons à leur bébé du lait d'autres mamans. Pourquoi ? Parce que la protection qu'offre le lait humain contre les infections est connue depuis longtemps. Et notamment chez l'enfant prématuré, il soutient entre autres le développement du système digestif et contribue à prévenir certaines complications liées à la prématurité qui peuvent être potentiellement très graves. Voilà, donc il faut dire que les préparations pour nourrissons en poudre du commerce sont fabriquées à partir de lait de vache, donc il n'y a pas de comparaison possible avec le lait humain. Et donc dans ce cas-là, le lait humain devient un véritable aliment, médicament.
Ah oui, donc on comprend bien l'importance de ce don. Et avec ces explications, le lait maternel, en fait, devient un véritable or blanc. Hein. On utilise souvent cette petite métaphore. Donner son lait, donc c'est sauver des vies. On imagine la détresse que peut venir causer une pénurie. Mais comment est-ce que vous faites dans ce cas-là, quand il n'y a pas assez de lait ?
Alors en effet, les lactariums connaissent des pénuries plus ou moins importantes et prolongées. Après la période Covid notamment, nous avons eu des années critiques. Les stocks étaient au plus bas. Partout, dans tous les lactariums de France. Et dans ce cas-là, on priorise, hein, c'est pas évident, on fait attendre. Il faut dire qu'il y a quand même en France un bébé prématuré qui naît toutes les 10 minutes. Et donc, nous pouvons destiner, quand les stocks sont suffisants, nous pouvons aussi destiner ce lait à des bébés qui ont des pathologies, comme des pathologies cardiaques, rénales, digestives. Donc en fait, on n'a jamais vraiment d'excédent. On est toujours un petit peu sur le fil du rasoir. Et il faut savoir que, bien sûr, en France, on a parmi les taux d'allaitement les plus bas au monde. Et la durée n'est pas très, très prolongée non plus des allaitements. Donc ça ne nous facilite pas dans le quotidien pour la collecte du lait.
Alors justement, Nathalie, si les mamans qui nous écoutent sont intéressées et veulent participer, qui peut donner son lait en premier lieu? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas finalement?
Alors, le don du lait est possible pour la plupart des mères. Elles ne peuvent pas, par exemple, lorsqu'elles ont eu certaines infections comme VIH, hépatite B ou C, ou lorsqu'elles ont eu une greffe d'organes ou une transfusion. Voilà. Mais après, bien sûr, la consommation de tabac, alcool, stupéfiants n'est pas possible, n'est pas compatible avec le don. Puisque faire un don de lait, c'est permettre la vie à un autre enfant. Donc, c'est important d'avoir une hygiène de vie compatible avec ce don. Et surtout, c'est important de bien se renseigner pour ne pas gaspiller le lait, ce qui peut arriver parfois parce qu'on ne sait pas quoi en faire et en fait, on le jette.
Ah oui, c'est dommage, ouais, quand on sait que ça peut sauver des vies.
Tout à fait.
Et alors, comment ça se passe concrètement? Quelles sont les mesures d'hygiène à respecter pour donner son lait? À qui s'adresser si on a du lait au congélateur et qu'on ne sait plus quoi en faire? À qui est-ce qu'on appelle?
Alors, concrètement, au Lactarium de Bordeaux, nous sommes 17 collectrices. Nous nous déplaçons au domicile des mamans pour leur fournir des petits pots stériles. C'est important, voilà, qu'elles le conditionnent dans des bons contenants. Elles congèlent le lait. Avant la congélation, il est indispensable de respecter des règles d'hygiène telles que le nettoyage très soigneux du matériel, c'est-à-dire des recueillets ou des tire-laits, et il est utile aussi de plonger tout ce matériel dans l'eau bouillante, voilà, pour une stérilisation et être sûr d'avoir les conditions optimales pour que le lait après puisse être utilisé à l'hôpital. Toutes les personnes intéressées peuvent consulter le site du Lactarium de Bordeaux ou le site de l'Association des Lactariums de France pour avoir les coordonnées de la personne qui peut passer chez elle.
Ah oui, parce qu'il y a des personnes par secteur.
Absolument.
Et vous pouvez me redire votre secteur, Nathalie?
Alors, moi je suis basée en Corrèze, j'habite en Corrèze, je vis en Corrèze, mais je rayonne sur les départements limitrophes, le Cantal, une partie du Cantal, du Lot et de la Dordogne. Et j'ai aussi une collègue en Haute-Vienne qui rayonne sur une partie de la Creuse.
Alors, pour rappel, on mettra toutes ces références, les sites internet et votre numéro, notamment Nathalie, pour ces départements-là, en description de ce podcast que vous allez sans doute écouter sur radiovassivière.fr. Nathalie, merci de nous donner toutes ces informations. Moi, j'aimerais à mon tour parler de mon expérience du don de lait et mettre notamment l'accent sur un point, puisque moi, je donne du lait maternel au Lactarium depuis 8 mois, depuis la naissance de ma fille. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu la chance de vous rencontrer. Alors, je voudrais dire à toutes les mamans qui nous écoutent que c'est en donnant mon lait, lors de vos visites, Nathalie, que j'ai appris le plus de choses sur l'allaitement et même sur les bébés. Lorsque vous venez récolter le lait, c'est bien plus qu'un simple moment de collecte. Moi, j'adore vous recevoir, vous le savez, on discute toujours toutes les deux autour d'un café. Quand vous venez, ça me redonne de l'énergie parce que, il faut le dire aussi, l'allaitement, c'est beau, c'est doux, mais c'est parfois fatigant, parfois difficile. Il peut y avoir des petits soucis qui viennent se glisser. Et vous en profitez, Nathalie, pour prendre toujours des nouvelles de la maman, du bébé, du papa même, des fois, c'est assez rigolo, parce que le papa a aussi son rôle dans l'histoire de l'allaitement. Vous conseillez, vous accompagnez les mamans, les bébés, tout le monde. Et je pense qu'il est nécessaire de mettre en avant votre bienveillance, votre écoute, votre joie de vivre et surtout votre savoir. Vous savez tellement de choses sur l'allaitement, vous m'en avez appris, mais beaucoup. Et donc, je voudrais savoir comment vous avez acquis ce savoir. Je sais que vous partez souvent en formation.
Oui, alors d'abord, merci Maïline, parce que c'est un véritable plaisir d'accompagner des mamans qui font preuve d'autant de générosité. Alors effectivement, le CHU nous propose de nombreuses formations tout au long de l'année. J'essaie de faire un maximum de formations. Pour moi, c'est indispensable. Il faut toujours remettre à jour les connaissances. On ne peut pas rester sur des acquis, ça évolue, tout est en permanente évolution. Et même si l'allaitement est un geste naturel, il y a énormément de particularités et j'apprends constamment, y compris à l'écoute justement des mamans qui allaitent.
Ah, c'est super, c'est très intéressant. Alors Nathalie, justement, je voulais qu'on poursuive cette interview avec une surprise qui va vous faire plaisir, j'espère. Lors de nos visites, nous discutons souvent toutes les deux des préjugés autour de l'allaitement et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Et moi, j'adore entendre toutes ces petites anecdotes sur les mamans que vous rencontrez. Il y a ces petites anecdotes bienveillantes, mais il y a aussi les autres. Des fois, on se passerait bien de ces anecdotes pas toujours très positives. Il faut dire qu'il y a beaucoup de remarques, beaucoup de préjugés malheureusement qui planent autour des mères qui donnent le sein. Et parfois c'est vraiment pénible et décourageant même pour ces mamans. Ces petites réflexions piquantes, qu'elles soient volontaires ou non, ont souvent une origine historique, vous allez le voir. Et je vous emmène tout de suite en 1759 à la rencontre d'Angélique Le Boursier du Coudray. Madame du Coudray était une sage-femme, une maîtresse sage-femme d'origine auvergnate formée à Paris. Après un début de sa carrière à la capitale, elle est vite revenue dans son Auvergne natale afin de former à son tour des élèves sage-femmes en province. Elle a fait un véritable road trip, si je puis dire, dans tout le royaume de France. Elle fut surtout la première à instruire des élèves et à faire preuve d'efforts pédagogiques considérables et totalement novateurs. En effet, au XVIIIe siècle, la première difficulté rencontrée sur le terrain en formant des jeunes filles volontaires au métier de sage-femme, eh bien c'est la barrière de la langue. La plupart ne parlent pas français, puisqu'à cette époque, dans le royaume de France, on parle son patois local. Seconde barrière, si ses élèves ne parlent pas le français, elles savent encore moins le lire. Alors Madame du Coudray, elle s'est tout de suite montrée ingénieuse et elle a fabriqué ce qu'elle appelait la machine. C'est un mannequin de tissu et d'osier pour enseigner par le toucher, par la sensation, son art aux élèves sages-femmes de province. Et elle rédigea quand même, en 1759, à destination cette fois-ci de celles et ceux qui savaient lire, l'abrégé de l'art des accouchements. Ce petit manuel est une véritable pépite historique. On y trouve un passage très intéressant sur les nourrices et l'allaitement. Alors vous savez, à l'époque, souvent les femmes des campagnes allaitaient leurs enfants quand elles le pouvaient, quand ça fonctionnait. Mais il y avait encore cette mise en nourrice, on envoyait son bébé quand on avait un peu de moyens et qu'on voulait retourner très vite dans la société, quand on était une femme de haut rang, on envoyait son bébé en nourrice, qui était nourrie vraiment, hein, littéralement, qui prenait le sein d'une autre femme, qui était rémunérée pour cela. Et donc, Nathalie, je vais vous faire lire une partie de cet abrégé de l'art des accouchements. Je suis curieuse d'entendre vos lumières sur ces fameuses recommandations d'Angélique de Coudray, des recommandations vieilles de 266 ans, mais qui arrivent encore, hélas, aux oreilles des femmes enceintes et des jeunes mamans. Vous allez voir, cette sage-femme, Angélique du Coudray, elle avait un savoir parfois contestable sur la mise en nourrice et sur l'allaitement. La première recommandation qu'elle donne, une bonne nourrice, selon Madame du Coudray, c'est une femme en parfaite santé. Je la cite, « La bonne constitution du corps étant la première qualité de la bonne nourrice. Il serait bon qu'elle ne fût point née de parents attaqués de certaines maladies capables de se transmettre via le lait au nouveau-né, comme la goutte ou encore l'épilepsie. » Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est vrai que nos ancêtres avaient beaucoup de peurs et de règles, avec des fantasmes qui étaient bien loin de la réalité. Il est clair que la méconnaissance de nombreuses maladies à cette époque-là ouvrait la porte à des hypothèses assez farfelues et faisait poser surtout sur les femmes bien des injonctions qui peuvent encore un petit peu perdurer.
Oui. Alors, tout de suite, la deuxième recommandation qui, moi, m'a fait beaucoup rire dans la façon de l'écrire. Les mamelles doivent être d'un volume suffisant, ni trop grosses, ni trop petites, pour fournir la quantité de lait nécessaire à l'enfant. Il faut qu'elles ne soient ni aplaties, ni attachées aux côtes. Elles doivent au contraire s'avancer, en dehors, en forme de poire. Le mamelon ne doit être ni trop gros, ni trop enfoncé. Un mamelon trop gros empêcherait le bébé de téter. En un mot, la grosseur et la figure du mamelon doivent répondre à celle d'une noisette.
Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que le sein est une glande qui est conçue pour fabriquer du lait, mais le bébé n'a pas d'élément de comparaison. Il s'adapte au sein de sa mère. Il y a la petite période délicate de la mise en route de l'allaitement. Et ensuite, normalement, avec du soutien, la maman, par exemple du soutien pour positionner son bébé, la maman se débrouille très bien, et le bébé se débrouille très bien, quelle que soit la taille de la poitrine. La taille de la poitrine n'influe pas sur la quantité de lait qui sera produite.
Et oui, ça c'est un préjugé qu'on peut avoir. Oui. Si on a une petite poitrine, on n'aura pas beaucoup de lait. Si on a une forte poitrine, on aura beaucoup de lait. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi je peux vous dire que pas du tout, parce que j'ai des dons de maman avec des toutes petites poitrines, des dons plutôt importants. Donc, ce qui fait que le sein fabrique du lait, c'est la glande mammaire. Et ce qui fait le volume du sein, c'est plutôt le tissu graisseux. Mais le tissu graisseux n'a pas d'importance dans la fabrication du lait. Donc en fait, heureusement, toutes les femmes, puisque nous sommes des mammifères, peuvent fabriquer du lait.
Et alors justement, sur ce lait, Madame du Coudray continue et elle écrit, « Le lait doit être ni trop ferreux ni trop épais. » Alors elle explique notamment cette expérience de la cuillère au creux de la main pour vérifier si le lait est bon. Alors ce qu'elle conseille de faire, c'est de presser le sein de la nourrice, de la femme qui allaite, dans une petite cuillère, de récolter cette quantité-là, de la mettre au creux de la main et de retourner la main. Et alors elle explique, si le lait coule trop vite et tombe trop vite par terre, c'est qu'il n'est pas assez nourrissant. Par contre, s'il colle trop à la main, là, c'est qu'il est trop gras. Alors moi, là, j'ai des échos qui résonnent, qu'on a pu me dire tout au long de mon allaitement. Ah, ton lait n'est pas assez nourrissant. Ou au contraire, des fois, souvent, quand les bébés ont des petits boutons d'acné du nourrisson, ah, on dit, ton lait, il est trop riche, ça va pas.
Ouais,
éclairez-nous.
En fait, on entend encore beaucoup ce style de réflexion. Il me semble que ce qui, dans les mentalités populaires, probablement a desservi le lait humain, c'est son aspect. Il est très liquide, il est parfois transparent, il paraît moins crémeux, moins épais que du lait de vache. Et donc la comparaison n'est pas favorable au lait humain. Mais on sait quand même de sources sûres, notamment par la chimie et la biologie, que la constitution du lait de femme est une combinaison spécifique pour l'espèce humaine. En permanente évolution, notamment au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et la nature fait bien les choses. Tout est assimilable pour le bébé dans le lait de sa mère, y compris les anticorps en réaction aux germes qu'elle peut rencontrer dans son environnement.
Et oui, Nathalie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le lait aliment, le lait qui devient médicament. Bon, Madame du Coudray n'avait pas encore ces connaissances-là à l'époque. Alors, je vous propose de poursuivre. La suite, moi, m'a fait beaucoup rire, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Madame du Coudray nous donne une autre recommandation dans le choix de la nourrice. Et elle explique que l'âge entrerait en compte, justement, dans le choix d'une bonne nourrice. Et elle dit, celle-ci doit être ni trop jeune, ni trop vieille. Le premier âge est trop chaud. Le second âge abonde trop en humeur. Et elle dit que le bon âge serait finalement entre 25 et 35 ans pour allaiter un enfant et pour que le lait soit le meilleur pour lui.
Alors, la glande mammaire est prête dès la puberté, ce qui permet une lactation normale dès la puberté.
C'est peut-être un peu tôt, par contre.
Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est vrai qu'en France...
Dans les mœurs, aujourd'hui,
voilà,
oui.
Mais à l'époque, certainement, que c'était tout à fait fréquent.
Oui.
Et on peut considérer quand même que si la grossesse est possible, l'allaitement peut suivre. En ce qui me concerne, j'ai des dons de maman, disons, entre 17 et presque 50 ans.
Ah oui, d'accord. C'est une tranche d'âge en plus. Vous rencontrez vraiment toutes les femmes.
Oui.
C'est très intéressant. Oui. Et alors la physiologie, à cette époque, rentrait en jeu en matière d'allaitement. Elle dit « On préférera les nourrices à cheveux châtains ou noirs, aux blondes et aux rousses. » Alors elle explique que le lait serait meilleur, à la fois au goût, puisqu'elle dit « Attention, les blondes et les rousses, elles ont tendance à avoir des taches de rousseur, ce qui fait que l'odeur de leur peau est différente et que ça incommode l'enfant. Donc le lait serait meilleur chez les femmes à cheveux châtains ou noirs, et en plus, le bébé têterait mieux. » Puisque leur odeur corporelle serait plus favorable. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, ça vous fait sourire déjà.
Ah oui, parce que effectivement, la saveur du lait évolue en permanence en fonction de ce que mangent les mères. Mais quand même, même si de nos jours l'entourage peut encore colporter des idées reçues plus ou moins fausses, là, c'était quand même.
Oui, ça nous fait beaucoup rire aujourd'hui.
Voilà. Et je crois que ce qui est important, c'est que les mamans se fassent confiance, qu'elles écoutent leur petite voix intérieure et qu'elles fassent confiance à leur bébé. Et voilà, il n'y a pas de cliché ni sur leur physique, ni sur leur couleur de cheveux. Enfin, heureusement.
Heureusement, c'est plutôt rassurant.
Oui.
Alors, Angélique du Coudray va même plus loin. Elle explique aussi que le caractère en fait de la nourrice entre en compte. Elle écrit « Il n'est pas douteux que le caractère de celle qui allaite n'influe beaucoup sur l'enfant qui suce les vices avec le lait. La nourrice doit n'être point sujette aux vices, au vol, à la violence ou encore d'humeur inégale. »
Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, soit le bébé était allaité par sa maman, soit les familles avaient les moyens de se payer les services d'une nourrice. Et parfois, même la nourrice était hébergée sous le toit de la famille. Mmh. Donc je pense que c'était aussi pour ça qu'ils voulaient s'assurer de la bonne éducation, parce qu'il l'hébergeait en fait. Hein.
Oui, c'est pas le, ce n'est pas une nourrice un peu stressée va voilà. faire un enfant stressé par les humeurs ne passe pas par le lait.
Non, absolument pas.
Parce qu'on dit ouais. des fois dans les campagnes, j'ai pu entendre moi, mais t'énerve pas, tu vas faire tourner le lait.
Oui, non, mais ça c'est pas possible.
C'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Et alors vous parlez de ça, mais justement il y a un passage aussi où Angélique Ducoudray elle explique que pour la mise en nourrice, donc les enfants à cette époque la plupart du temps ils vont à la campagne. Chez le couple, en fait, la nourrice et son mari. Et ouais. elle dit, il faudra faire attention quand même à voir comment ils vivent ensemble. Mmh. Parce que si jamais ils ne s'entendent pas, il ne faudrait pas que l'enfant prenne les coups, finalement, de l'un ou de l'autre dans leur moment de bagarre.
Oui, bah alors ça, effectivement, si l'ambiance est très tendue
oui, au
sein du foyer, et s'il y avait de la violence, de l'alcoolisme, ou, ça, c'est plus une question de lait, quoi, en fait. C'est
oui.
une question de cadre de vie pour ce bébé.
Oui, exactement. Exactement. Mais bon, je vous ouais. dis, parce que je vois que ça vous fait rire, c'est ce qu'elle ouais. écrit vraiment dans cet abrégé de l'art des accouchements que tout le monde peut retrouver sur Internet. On le mettra, je mettrai notamment le lien pour aller le voir, pour que vous puissiez découvrir toutes les petites anecdotes autour de l'allaitement, mais pas que, hein, je vous le rappelle, ouais. ça a été écrit pour former des sages-femmes. Et c'est très rigolo, justement, d'avoir ces petites recommandations vieilles de 266 ans. Alors, je les ai sélectionnées, j'en ai sélectionné quelques-unes. Mais maintenant, Nathalie, j'aimerais vous poser une question. Quels sont les pires préjugés autour de l'allaitement que vous avez pu entendre au cours de votre carrière? Et le préjugé qui vous a fait le plus sourire?
Oui, alors beaucoup, beaucoup de préjugés. En fait, je devrais les noter, vous voyez, comme ça.
Ah, mais ce serait super, oui.
Je pense que je vais le faire.
Un petit carnet,
un petit
oui.
carnet, parce que, bon, on entend, allaiter abîme les seins, allaiter exclut le père, allaiter au-delà des premiers mois est inutile, alors que l'OMS préconise 6 mois d'allaitement exclusif, suivi de 2 ans d'allaitement avec des aliments solides. Mais bon, un des préjugés, je crois, qui m'a fait le plus sourire, c'est surtout ne va pas au soleil, il faut pas que tu aies trop chaud, autrement ton lait va tourner.
Ah oui.
Voilà, par exemple, des dames qui veulent aller au sauna, au hammam, oh là là, non, c'est pas possible en allaitant.
D'accord, oui, bah oui, c'est rigolo, hein, c'est des petites...
Ou ne bois pas d'eau gazeuse, alors qu'est-ce que ça peut impliquer, l'eau gazeuse? Faire du lait gazeux?
Ah bon?
Non, mais on entend beaucoup de choses, en
oui,
effet.
Oui, 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 mais bon, c'est assez rigolo hein, quand même, la plupart du temps, c'est vrai que c'est désagréable, mais il y a quand même de petites remarques comme ça qui nous font rire. Alors, moi je vous ai emmené 266 ans en arrière, hein, Nathalie, j'espère que ça vous a plu.
Oui.
Cette petite surprise historique. Et oui, à cette époque, hein, si les femmes des campagnes allaitaient souvent leurs enfants, lorsque cela était possible, il était courant d'engager des nourrices. Et cela quasi systématiquement pour les femmes de haut rang. Donc finalement, on pourrait dire que le don de lait ou le fait de nourrir un enfant qui n'est pas le sien n'est pas chose nouvelle. Au 19e et au 20e siècle, avant l'existence des lactariums, on proposait même d'hospitaliser les nourrices avec leurs enfants pour qu'elles puissent justement donner leur lait au bébé qui était à l'hôpital, au bébé qui en avait le plus besoin. Puis au fil du temps, deux causes ont écarté cette solution. Eh bien, d'une part, les frais engendrés pour la prise en charge de la nourrice hospitalisée, hein, en plus de sa rémunération pour le lait qu'elle donnait, puisqu'on payait ce lait, hein, c'était un véritable métier, la nourrice à l'époque. Mais aussi, tout simplement, pour cause, le refus des femmes de justement devoir rester à l'hôpital. Et c'est ce qui a conduit en 1947 à la création de Lactarium en France, avec cette fois-ci la collecte de lait au domicile, comme vous le faites, Nathalie, aujourd'hui. Le premier Lactarium a vu le jour en Île-de-France, et il a fallu ensuite quelques années pour en voir fleurir partout en France. Il y en a combien aujourd'hui, Nathalie, vous le savez?
Il y en a autour d'une vingtaine.
Autour d'une vingtaine en France? Super. Il y en a le plus près ici, alors?
Alors, le plus près, c'est Bordeaux. Il y a aussi Lyon.
Oui.
Enfin, au sud de la Loire, en fait, il n'y a pas beaucoup de lactarium. Il y a Bordeaux, Lyon et Montpellier. Mais il y a des lactariums comme celui de Limoges qui fonctionnent, on appelle ça à usage interne, c'est-à-dire que le lait collecté est traité pour être redonné au bébé de la maman qui l'a collecté, vous voyez. C'est pas du lait qui va devenir après pour le don à une maman et à un bébé qu'on ne connaît pas.
Voilà. Ah oui, d'accord.
Donc c'est pour ça que voilà, il y a deux types de lactariums en France.
Alors vous me disiez aussi, Nathalie, que le lait pouvait être pasteurisé et envoyé même dans les dom-toms.
Oui, alors dans ce cas-là, il est même pasteurisé et lyophilisé.
Ah oui.
Voilà,
d'accord.
Ce qui permet une conservation facile hors du froid. Et notre lactarium à Bordeaux est le seul lactarium habilité justement à envoyer le lait dans ces zones assez éloignées de l'Hexagone.
Ah oui, c'est très intéressant de savoir que le lait peut aussi voyager. Alors Nathalie, je vous propose de continuer notre odyssée historique dans l'histoire de l'allaitement. Je vous emmène cette fois-ci dans une période un peu plus contemporaine de la nôtre, mais tout aussi intéressante si ce n'est plus, vous allez le voir. Je voudrais vous faire découvrir Monique Planchon. C'est une petite interview qui a été réalisée en 1982. Et cette Monique Planchon, eh bien, elle a 30 ans, elle a 6 enfants. Et elle a donné, vous allez le voir, vraiment beaucoup, beaucoup de lait au lactarium, hein, au lactarium de Touraine. On écoute ça tout de suite.
Planchon, nous voilà devant ce qu'on peut appeler les objets de votre performance, une performance quotidienne.
Oui, 15 biberons par jour. Et Jean-Pierre, le 20 août 70. Et j'ai tiré le 1er janvier 72, Lydie le 4 janvier 73, Nathalie le 8 octobre 74, Christophe le 20 mai 79 et Séverine le 29 juin 81.
Et tout cela, ce qu'on peut appeler des beaux bébés à la naissance.
Oui. Jean-Pierre 3 kg 600, Thierry 4 kg 940, Lydie 2 kg 200, Nathalie 4 kg 600, Christophe 3 kg 200 et Séverine 4 kg 180.
Et tous ces enfants, vous les avez allaités?
Oui, tous, les 6.
Monique Planchon, 30 ans, première nourrice de France. Grasselles, le petit village tourangeau de Tilous, près d'Azay-le-Rideau, sortira de l'anonymat. C'est là que la première nourrice de France a choisi de donner l'amour maternel à ses 6 enfants et son lait tout aussi maternel à beaucoup d'autres.
Madame Planchon, tous ces enfants, ça donne du travail?
Oui, beaucoup.
Et cette envie d'avoir 6 enfants, c'est une envie de jeune fille, de petite fille?
Non, je les ai voulus. Si je les ai, c'est que je les ai voulus. Hein.
Dès quand vous étiez enfant, vous songiez avoir une grande famille?
Ah non, je pensais pas en avoir beaucoup. Hein. Je pensais en avoir 2, 3, mais pas plus.
Vous-même, vous êtes issu d'une grande famille?
Oui, ma mère en a eu 9, ma grand-mère en a eu 14.
Et vos mères, votre mère et votre grand-mère vous ont donné le chemin pour l'allaitement?
C'est ma mère qui a allaité étant ma grand-mère, je sais pas. Hein. Mais c'est ma mère qui a allaité ses enfants, quoi. Elle nous a allaités, nous. Elle nous a pas poussé, elle m'a pas poussé à donner du lait hein, au lactarium. C'est venu de moi-même.
On dit généralement qu'allaiter un enfant, cela fatigue la femme et cela fait souffrir.
Non, pas du tout. Les premiers jours, ça fait mal un peu au sein, mais c'est tout. Hein. Puis après, il faut endurer, c'est tout. Hein. Après, ça va. C'est une question d'habitude.
Une habitude qui sous-entend également certaines servitudes. Aujourd'hui, l'allaitement maternel ne fait plus partie systématiquement de l'univers de la jeune mère. Quelquefois, c'est le lactarium qui se substitue à la fonction maternelle. Aussi, les nourrices comme Madame Planchon sont les bienvenues. Mais sa vie, elle a dû l'organiser autour de ses 6 enfants, de la petite dernière encore allaitée et des séances de tire-lait. Monique est donc une femme presque comme les autres, une de celles dont on ne parle jamais. Elle est femme, mère et nourrice, et croyez-moi, cela suffit pour meubler une existence.
Alors, Madame Planchon, nous voilà devant ce qu'on peut appeler les objets de votre performance, une performance quotidienne.
Oui, 15 biberons par jour.
Ce qui représente combien de litres de lait?
3 litres 800 plus ce que ma petite prend, on prend 700 grammes par jour.
Comment les médecins, par exemple, expliquent le fait que vous ayez autant de lait?
Ben, je sais pas, c'est normal pour eux, c'est normal parce que j'ai du lait.
C'est quand même très exceptionnel.
Docteur civil, médecin généraliste.
Très exceptionnel parce que, disons qu'une femme qui allaite normalement a une production qui est de l'ordre du litre, à peu près. Il y a quelquefois des personnes qui ont la chance d'avoir plus de lait et à ce moment-là, elles ont la possibilité d'en faire don au lactarium.
Il y a combien de temps que vous avez commencé à donner votre lait au lactarium ?
C'est depuis l'année 70.
Ce qui représente plus de 10 ans et combien de litres ?
En tout, ça fait 4000 litres avec les 6 enfants que j'ai eu.
J'ai envie, si vous me permettez le terme, de parler de performance sportive. Tout sportif a un entraînement et certaines privations. Est-ce qu'il y en a pour vous ?
Quelques-unes, les sorties surtout. C'est embêtant de partir et puis emmener les tire-laits, les biberons pour se tirer, tout ça.
Alors, Madame Planchon, expliquez-nous un petit peu comment se passe votre journée avec tout ce petit monde et toute cette charge.
J'ai beaucoup de travail. J'ai fait les lits le matin, ma chambre. Et puis le déjeuner, puis après le 4h, ils arrivent pour faire le casse-croûte.
Et puis pour ce qui est des tétés, si on peut employer ce mot avec le tire-lait.
C'est toutes les 2 heures, toutes les 1h30 la journée et la nuit toutes les 2 heures.
Ce qui signifie que la nuit on se relève.
Oui, toute la nuit. Oui.
Alors pour ce travail, vous êtes quand même rémunéré par le centre hospitalier.
Oui, un peu, oui.
Une activité féminine souvent méconnue et pourtant indispensable car elle manque de publicité. Que le point final de cette rencontre soit des paroles de reconnaissance, celles d'un journaliste qui, comme beaucoup d'hommes, doit sa vie au lait d'une autre que celle qui lui a donné le jour.
Nathalie, qu'est-ce que vous pensez de cette Monique Planchon ? Moi, je la trouve très attachante. Hein.
Oui, effectivement, très attachante et très assidue, parce qu'une telle implication pour un sixième enfant, c'est carrément exceptionnel.
Et puis, 15 biberons par jour, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. En moyenne, une maman produit 800 millilitres par 24 heures. Donc là, c'est vraiment, vraiment beaucoup. On peut parler d'hyperlactation, ce qui n'est pas forcément très confortable, hein, d'ailleurs, pour la mère en question. Et là, j'avoue que je n'ai jamais eu de tel don.
Pourquoi c'est pas confortable ?
Bah, parce qu'elle elle est toujours, elle doit toujours recueillir du lait ou tirer du lait, autrement, soit ça coule tout seul, soit elle a mal au sein. Donc en fait, c'est quand même presque une obligation pour elle. Et donc je pense que, elle a l'air de très bien le vivre, hein, Madame Planchon,
mais oui,
4 litres de lait par jour.
Elle a joué de vivre, hein,
c'est ça.
Avec 6 enfants, on s'attend. Oui. Moi, je m'attendais à une personne un peu plus fatiguée, mais elle a de l'entrain. Alors c'est une, je le redis aux auditeurs, hein, c'est une vidéo en fait. Ouais. Donc vous pourrez la retrouver en description de cet épisode. Et c'est une vidéo de l'INA, de l'Institut National des Archives. L'interview a été faite en 1982. Mais comme elle le dit, elle donne son lait depuis 1970. Pratiquement 10 ans, hein, 12 ans. C'est
tout
fou,
hein. Oui.
Et oui, une véritable... Le journaliste, hein, parle de performance sportive. Mais oui, c'est un...
C'est un record,
pense. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Alors, ce qui me frappe aussi, moi, dans cette interview, c'est que Madame Planchon, elle explique qu'elle reçoit une petite compensation financière pour son lait. Aujourd'hui, on parle de don, hein, ce n'est pas rémunéré, hein, n'est-ce
non,
pas ?
Non, absolument plus. En France, le don de lait est anonyme et gratuit, on va dire, je pense, depuis les années 1990.
Vous aimeriez la rencontrer aujourd'hui ?
Ah oui.
Je ne sais pas ce qu'elle est,
ah oui.
ce qu'elle est devenue.
Madame Planchon, mais... si vous nous écoutez, contactez la radio.
Exactement, si vous écoutez Radio Massivière, contactez la radio. Nous on voudrait vous rencontrer, voudrait vous mettre en lumière, hein, parce que waouh, c'est super, 4000 litres, hein, ils le disent en 10 ans, c'est fou.
Et c'était pas fini.
Ben non, c'était pas fini, elle a peut-être eu d'autres enfants.
On sait pas.
D'autres enfants, oui. Et puis oui, ce qui me frappe, c'est qu'elle n'avait que 30 ans aussi, hein, oui. Au moment de l'interview. Alors si elle est encore là, oui, qu'elle se manifeste, on la recevra avec plaisir. Nathalie, je termine cette interview, hein, je vous remercie d'être venue partager un moment ici avec moi, dans le studio de Radio Vassivière, hein, à Mémac. J'espère sincèrement que vous vous êtes amusée.
Oui, absolument. C'est une découverte, voilà, pour moi, je n'avais jamais fait d'interview radio, mais un très bon moment. Et merci à vous, Maëline, pour cette invitation qui a permis de mettre en lumière le don du lait.
Ben oui, justement. Et alors, une dernière question avant de partir. Si les mamans et les personnes qui nous écoutent veulent vous contacter ou trouver plus d'informations sur le don de lait, comment faire, qui contacter, est-ce que vous pouvez nous redonner les références?
Alors absolument. Pour faire un don, rien de plus simple. Il faut une lactation bien établie, un congélateur. Et je rappelle qu'il n'y a pas de durée minimale ou maximale du don. Chacune collecte en fonction de ses possibilités. Et ensuite, tout simplement, on contacte le lactarium du secteur, via internet, et puis après il y a une personne qui se déplace à domicile pour donner les explications et le matériel.
Nathalie, comment vous joindre, vous, directement pour les mamans corréziennes notamment qui nous écoutent?
Alors je peux vous donner mon numéro direct de téléphone qui est le 06 14 74 24 12.
Et donc, comme je vous l'ai dit, moi je remets toutes les informations en description de ce podcast. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup Nathalie. Merci également à Radio Vassivière d'avoir rendu cette chouette interview possible. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'être toujours avec nous. Et n'hésitez pas, si ce premier épisode vous a plu, à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, métaphore.m, où je partage beaucoup de choses sur l'histoire de l'allaitement, sur l'histoire de la naissance ou des sages-femmes. J'ai aussi un compte Facebook, Métaphore Lettre Histoire. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager ce premier épisode. Cela me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous et ça m'encourage dans mon travail. À très bientôt.
Merci à tous de votre écoute. Bonne journée.